Radio Prague, les informations. Bonjour, trois joueurs internationaux tchèques de hockey sont morts dans un crash aérien en Russie. Anders Rasmussen était à Prague ce mercredi. La République tchèque a fait savoir qu'elle respecterait ses engagements pris vis-à-vis de l'OTAN. Et puis les députés ont adopté une partie de la réforme de santé. Trois hockeyeurs tchèques et 41 autres des 45 passagers sont morts dans un accident d'avion mercredi après-midi à côté de l'aéroport de Yaroslavl à 300 km au nord-est de Moscou. L'avion de ligne de type Yakovlev 42 transportait l'équipe de hockey sur glace du locomotif Yaroslavl qui se déplaçait à Minsk en Biélorussie pour un match de la Ligue continentale KHL. Les trois hockeyeurs tchèques Karel Rachunek, Jan Marek et Josef Vašiček faisaient partie de l'équipe nationale tchèque avec laquelle ils ont été sacrés champions du monde durant leur carrière. Josef Vašiček a également remporté une Coupe Stanley en NHL, tandis que les deux autres joueurs ont remporté le championnat de Russie. Ces derniers mois, la Russie est souvent le théâtre d'accidents aériens impliquant de vieux avions de conception soviétique comme le Yakovlev 42 qui a été mis en service en 1980. Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, était en visite à Prague ce mercredi. À cette occasion, le Premier ministre Petr Nečas a indiqué que la République tchèque entendait respecter ses engagements pris dans la stratégie de défense de l'Alliance Atlantique, et ce notamment en Afghanistan, même si la priorité du gouvernement reste la réduction du déficit des finances publiques. Cette année, environ 720 soldats tchèques opèrent toujours en Afghanistan. Prague entend toutefois réduire ses effectifs d'environ 200 unités dans le courant de l'année prochaine. Avant la fin de cette année, l'armée tchèque retirera également son escadron d'hélicoptères et son groupe de forces spéciales. Anders Rasmussen a indiqué de son côté que la République tchèque pouvait réaliser des économies en se joignant au projet de partage des capacités militaires des pays membres de l'OTAN. Par ailleurs, le secrétaire général a déclaré que l'OTAN ne possédait pas d'informations sur le lieu où pouvait se trouver Muammar Kadhafi. La Chambre des députés a adopté ce mercredi l'amendement à la loi sur les services de santé. Il s'agit de la deuxième partie de la vaste réforme de santé envisagée par le gouvernement. Selon le texte, les droits des patients dans le choix de soins qui leur seront octroyés seront plus limités. Les députés ont également approuvé deux autres textes de loi faisant partie de la réforme. Mardi, la Chambre basse du Parlement avait également approuvé, après un rejet du texte par le Sénat, l'augmentation du montant des frais d'hospitalisation. Le montant du forfait journalier réclamé aux patients devrait donc passer des 60 couronnes actuelles, soit 2,45 € à 100 couronnes, 4,10 €. Cet amendement à la loi sur l'assurance maladie, fortement critiqué par l'opposition de gauche et parfois présenté comme une petite réforme de la santé. Le service de renseignement tchèque BIS critique dans son rapport annuel pour 2010 la justice du pays. Selon le rapport, la corruption, le clientélisme, la révélation d'informations sensibles, les contacts suspects avec la mafia ou encore l'inertie de ses représentants et notamment de certains juges y sont monnaie courante. Toujours selon le service de renseignement, ces délits restent impunis en raison de la position des juges et des magistrats, comme exemple de corruption et de clientélisme. Le rapport cite les connexions qui existaient entre une partie des professeur de la faculté de droit de Plzeň en Bohême de l'Ouest et les représentants de la police, du barreau et de l'administration publique. Culture, il y a 170 ans de cela, le 7 septembre 1841, naissait dans le village de Nela Hozevets, situé dans les environs de Prague, le compositeur Antonín Dvořák, un des plus célèbres compositeurs tchèques, a grandi dans la famille d'un boucher. Au cours de sa vie, Antonín Dvořák a créé une cinquantaine de compositions pour orchestre, 11 opéras et plus de 40 œuvres de chambre. Entre 1892 et 1885, il a également été le directeur du Conservatoire de New York. C'est à cette époque-là qu'Antonín Dvořák a composé sa 9e symphonie du Nouveau Monde, son œuvre la plus célèbre. On passe au sport et au football. L'équipe de République tchèque a largement battu l'Ukraine 4-0 mardi soir à Prague en match de préparation. Il s'agit de la plus large victoire de la représentace depuis l'entrée en fonction du sélectionneur Michal Bilek il y a bientôt 2 ans. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très couvert et pluvieux qui continue de régner sur l'ensemble du territoire. Ce jeudi, jour de la fête des Mariana, les températures maximales varient entre 13 degrés dans le nord et l'ouest du pays et 20 degrés dans le sud-est. Une première amélioration et un retour du soleil sont prévus à partir de samedi. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus particulièrement en la compagnie d'Anna Kubishta pour la suite de notre programme. faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. On le retrouve d'ailleurs dans quelques instants à l'antenne puisque Guillaume a réalisé un entretien avec Marie Fenslova, présidente de la commission scientifique du 2e congrès européen des professeurs de français qui débute ce jeudi à Prague. À noter que Radio Prague est partenaire médiatique de cet événement. Et puis mardi s'est déroulée la 11e cérémonie de remise des prix scientifiques décernés à de jeunes chercheurs tchèques par l'ambassade de France et plusieurs firmes françaises. Nous étions sur place. Tout ceci sera avant de parler de la question des Sudètes dans la rubrique Histoire. Bonne écoute de ce programme. Le 2e congrès européen des professeurs de français débute ce jeudi à Prague. Pendant 3 jours, professeurs et spécialistes de la langue française et de l'éducation seront réunis à Prague. Le congrès est organisé par la Fédération internationale des professeurs de français en collaboration avec l'Association tchèque des professeurs de français. Membre de cette association, Marie Fenslova est aussi la présidente de la commission scientifique du congrès. Au micro de Guillaume Narguet, Marie Fenslova a donné quelques informations sur l'enseignement et la place du français aujourd'hui en République tchèque.
L'enseignement du français, je crois, est réalisé maintenant sur un niveau modéré, mais très sérieux. Ce n'est pas une vague de modernité, ce n'est pas, au contraire, une langue abattue. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui correspond à la réalité et peut-être aux besoins. Mais, ce que j'attends pourtant, éventuellement, ça pourrait être un soutien plus clair de la part des créateurs de la politique linguistique. Il faut que les responsables prennent conscience de la nécessité de l'éducation vraiment plurilingue, de la diversité linguistique dans l'éducation tchèque et surtout il faut que les décideurs tchèques prennent compte de la nécessité et qu'il est vraiment tout à fait indispensable que la mentalité en Europe centrale et l'opinion publique puissent puiser non seulement dans le discours formulé en anglais, mais aussi dans les discours formulés dans d'autres contextes, dans d'autres paradigmes mentaux et dans d'autres paradigmes de l'esprit européen. Et c'est ce que j'attends vraiment éventuellement de congrès. Je n'en suis pas sûre, on verra.
Aujourd'hui en République tchèque, on a quand même le sentiment que pour la classe politique, le gouvernement, une des priorités linguistiques, c'est quand même l'anglais. L'anglais qui est même présent dans les écoles maternelles aujourd'hui. Quelle est par rapport à ça la place du français ?
C'est difficile, il est difficile de répondre. Si vous me demandez pourquoi en République tchèque, dans toutes les écoles, on enseigne avant tout la langue anglaise comme la première langue enseignée, c'est parce que, bien sûr, la vision générale de la modernité est présentée comme l'Amérique. Je m'excuse. Et je crois que c'est pareil dans tous les pays.
Est-ce que le corps enseignant qui se charge donc de l'enseignement du français en République tchèque est de qualité? Est-ce qu'il sait répondre à la demande des élèves et à quel niveau? Est-ce que cela est vrai pour l'ensemble du pays?
Une bonne question parce que je peux donner une réponse absolument affirmative. Vraiment, le corps d'enseignants de français est, à mon avis, sinon le meilleur, sans doute un des meilleurs. En comparaison avec les enseignants de l'anglais, par exemple, ce qui n'est pas la faute de l'anglais, mais c'est la faute de la quantité des enseignants qui est exigée par les écoles. Mais les enseignants de français, pour la plupart, ce sont des gens très bien formés et surtout les gens qui sont capables de s'améliorer tout le temps. Ils ont un grand intérêt pour la formation continue et souvent, ce sont des personnes vraiment admirables.
Dernière question, peut-être, êtes-vous optimiste sur l'avenir du français en République tchèque ?
Oui, absolument, absolument. Il le faut, c'est nécessaire, il faut être optimiste, même si temporellement, peut-être, la situation n'est pas toujours la meilleure, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Je crois que le plus important, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Je ne parle pas d'une approche élitariste. Non, il s'agit vraiment de la bonne présentation de la langue française, de la bonne présentation de la francophonie en général. Et aussi, il s'agit de la recherche de soi-même par le prisme de l'altérité. Et c'est que la vision française offre vraiment. La vision française offre toujours une certaine mutualité, ce qui n'est pas le cas de toutes les didactiques des langues.
Et c'était donc Marie Fenslova au micro de Guillaume Narguet. Je vous rappelle que Marie Fenslova est présidente de la commission scientifique du 2e congrès européen des professeurs de français. Radio Prague est partenaire médiatique de ce congrès européen et nous consacrerons prochainement une émission spéciale à l'enseignement et à la place du français en République tchèque. La 11e cérémonie de remise des prix scientifiques décernée à de jeunes chercheurs tchèques par l'ambassade de France et les sociétés Areva, Bull, Rodia Česká republika, Sanofi et Pierre Fabre Médicaments s'est tenue ce mardi au Palais Buquois à Prague. À l'origine de cette initiative, le professeur et prix Nobel de chimie Jean-Marie Lenne a présidé l'événement et félicité les candidats. 24 étudiants ont cette année été récompensés pour leurs travaux en sciences computationnelles, sciences nucléaires, chimie, pharmacie et médecine. Les premiers lauréats de chaque catégorie se sont vus offrir un chèque par les entreprises partenaires, mais aussi auront la possibilité d'effectuer un stage dans un laboratoire français. Un coup de pouce appréciable pour ces jeunes tchèques, mais aussi une excellente façon de renforcer les liens entre la République tchèque et la France. Pauline Darvet.
C'est désormais devenu une tradition. Tous les ans, le professeur Jean-Marie Lenne se rend à Prague pour récompenser les meilleurs espoirs de la recherche scientifique tchèque. Créés au lendemain de la révolution de velours, ces prix devaient à l'origine permettre de développer l'excellence scientifique d'un pays encore dans une situation économique difficile. Rhône Poulenc, devenu aujourd'hui Sanofi Aventis, était la première entreprise partenaire et avait à l'époque misé sur le potentiel des laboratoires tchèques. Un pari sur l'avenir qui porte aujourd'hui ses fruits. Les travaux des jeunes scientifiques tchèques sont prometteurs et les firmes françaises associées au projet se réjouissent de cette collaboration. Cette année, deux nouvelles compagnies, Bull et Areva, ont décidé de rejoindre l'aventure. Le directeur général d'Areva en République tchèque explique les raisons et les objectifs de cette coopération.
Il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, il y a deux pays qui sont particulièrement pointe dans la recherche et développement dans le domaine nucléaire. Bien évidemment la France avec son opérateur historique et sa chaîne industrielle complète, mais moins connue des profanes, la République tchèque est un des pays leaders aussi dans ce domaine-là, avec un parc installé important et un véritable outil industriel. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est augmenter notre intimité et nos partenariats avec l'industrie et le milieu académique tchèque, qui sont très important pour le futur de l'industrie nucléaire en Europe.
Si les entreprises de l'Hexagone se félicitent du développement des partenariats entre les deux pays, les jeunes chercheurs tchèques y trouvent aussi leur compte. En plus d'une récompense financière, les deux premiers lauréats de chaque catégorie ont reçu une bourse d'études pour un stage de recherche d'un mois dans un laboratoire français de leur choix. Le premier prix de chimie, prix Sanofi Pharmacie, a été décerné à Ilova Hlubovna pour ses travaux sur la synthèse des glycoconjugués bioactifs. Pour la jeune chercheuse de l'Institut de chimie technologique de Prague, cette distinction est une véritable chance.
Je pense que ce prix, c'est un prix très prestigieux. Donc c'est un très bon début de la carrière de jeune chercheur. J'aimerais bien effectuer le mois de stage en société Sanofi Aventis dans la recherche et le développement des vaccins. J'aimerais bien continuer en coopération parce que déjà ce projet-là a été effectué en coopération entre l'Institut de chimie à Prague. École de chimie à Rennes en France. Donc j'aimerais bien continuer dans cette coopération.
Une année d'ailleurs propice à la chimie, puisque 2011 a été déclarée année internationale de la chimie. Il y a tout juste 100 ans, Marie Curie recevait son deuxième prix Nobel et faisait ainsi entrer les femmes dans l'histoire de la science. Le nombre important de lauréates lors de cette 11e édition est un bel hommage rendu à la scientifique française. Les chercheuses tchèques ont le vent en poupe et les entreprises françaises ne peuvent qu'applaudir.
Voilà, on passe à la deuxième partie de notre programme. Aujourd'hui, suite de l'entretien réalisé avec le germaniste Christian Jacques, spécialiste de l'histoire et de la culture allemande dans les pays tchèques et en Europe centrale, il est maître de conférences à l'université de Strasbourg. Au micro de Paul Bauer, il revient sur les fondements historiques et identitaires de la germanité sudète et retrace l'évolution de la question sudète dans les pays tchèques.
Chapitre de l'histoire.
Après 1990, comment cette question intervient dans les relations germano-tchèques et surtout comment est-elle reçue, perçue dans la société tchèque ?
Alors là, encore une fois, une question complexe. Hein, résumée en quelques mots, c'est bien sûr très difficile. Mais disons que je verrai bien sûr quelques étapes importantes. C'est bien sûr 1989-1990 le changement de régime, le début de discussions bilatérales entre les gouvernements. Tout semblait bien se passer au départ et les choses vont un peu déraper finalement après 1992 et la signature du traité de bon voisinage.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que Václav Havel, président de Tchécoslovaquie puis de République tchèque, avait plusieurs fois déclaré réaffirmé la responsabilité de l'État tchécoslovaque ou de la République tchèque face aux exactions commises en 1945. Mais, disons, l'intervention d'hommes politiques, de ces associations, ici les réactions au sein de la société tchèque, ont fait que, la question... cette question sudète réapparaît à intervalles réguliers.
Voici 7 ans que la République tchèque a intégré l'Union européenne. Comment, selon vous, ou plutôt quel regard porte la société tchèque sur cette question sudète ou comment elle intervient aujourd'hui dans les débats politiques ou débats médiatiques ?
Oui, alors, disons que la situation est plutôt... calme aujourd'hui en comparaison de ce qui s'était passé en début des années 90. Je crois que le traité de 1997, les déclarations germano-tchèques de 1997 entre le gouvernement tchèque et le gouvernement allemand ont de manière fait améliorer les choses de manière sensible, particulièrement sensible. Alors, un des caps importants était bien sûr la question de 2004. Notamment parmi les associations d'expulsés, donc les Sudetenlandsmannschaft, la Sudetenlandsmannschaft a voulu faire de la question de l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne une question essentielle. N'y sont pas arrivés en fait, et depuis disons 7 ans, la question est relativement marginale. Bon, elle s'est reposée encore lors de la signature du traité de Lisbonne, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt le côté tchèque et notamment Václav Klaus qui a fait, qui a réutilisé cette question.
Alors, il y a un musée de la culture allemande qui va ouvrir ses portes l'année prochaine à Austin ad Labem. Est-ce que vous pensez qu'une étape a été franchie sur la gestion de ce passé sudète dans les pays tchèques ?
Oui, je pense que c'est un signe important. C'est la preuve que il ne faut pas résumer les relations germano-tchèques simplement à des relations interétatiques. Il y a des choses qui se passent au sein des sociétés, tant en Allemagne qu'en République tchèque. Quand on parle aussi des Allemands de République tchèque, il faudrait aussi parler, de l'Autriche, hein, puisque ces Allemands, finalement, si on parle de Sudète, étaient-ils Allemands, Autrichiens, Tchécoslovaques ? C'est une question ouverte. Donc je crois que c'est une très bonne chose que de montrer que la présence, d'une société germanophone ou d'une communauté germanophone dans les pays tchèques est une chose importante et qu'il fallait absolument réaliser.
Estimez-vous que le passé allemand en Bohème a changé dans le regard de la société tchèque ?
Oui, bien sûr, c'est une évidence. Alors ceci n'exclut pas, bien sûr, une récupération politique de temps en temps du sujet, mais je pense que les choses devraient normalement, s'apaiser. C'est déjà le cas, mais ça risque bien sûr de devenir un sujet, je pense, secondaire à l'avenir. Mais c'est une bonne chose. Je crois que c'est un peu aussi, si on fait un parallèle qui est un peu boiteux entre, disons, les relations franco-allemandes, on voit aussi une certaine, j'allais dire indifférence ces dernières années. Et finalement, c'est la preuve que les choses ont trouvé une certaine normalité, et que les choses se sont apaisé, et c'est tant mieux.
Vous faites donc une distinction entre question Sudète et le passé allemand dans les pays tchèques.
Oui, tout à fait. Et puis, on voit bien que le terme de Sudète est un terme politisé et que, comme je l'ai dit déjà, un certain nombre de personnes ne se reconnaissent pas sous cette désignation. On parlait à l'époque d'Allemands de Bohême, d'Allemands de Moravie, d'Allemands de Silésie, les vecteurs d'identification étaient souvent différents. Et puis, donc le passé allemand, c'est pareil. Doit-on parler de passé allemand ou passé des populations germanophones ? Parce que s'agissait-il d'Allemands ? Alors pour les Français, bien sûr, qui ne font pas la différence entre citoyenneté et nationalité, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est une question ici importante.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous pouvez très bien, les populations germanophones, par exemple en Tchécoslovaquie, étaient des citoyens tchécoslovaques, mais de nationalité allemande. Donc deux choses différentes. On faisait la distinction et on le fait jusqu'à aujourd'hui, et pas qu'en République tchèque, dans un bon nombre de pays d'Europe centrale, où la nation se définit, autour de la question de la langue, principalement, de la culture. Et donc, les frontières de la nation sont des frontières culturelles, alors qu'en France, les frontières de la nation sont des frontières plutôt territoriales et politiques.
Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui une forme de réappropriation du passé allemand ou germanophone, du moins de sa culture, de son histoire, dans les pays tchèques, en République tchèque ?
Oui, je le pense. Bon, ce n'est peut-être pas toujours aussi visible qu'on pourrait le souhaiter, mais il y a des exemples très concrets, notamment on le voit dans la coopération transfrontalière autour de la restauration de certains bâtiments, de certains monuments, et puis aussi des associations. Alors je pense par exemple à Anticomplex, et puis ce livre sur Zmizeli Sudeti, les Sudètes disparus. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent ça se fait justement dans le cadre d'un passé ou d'une mémoire sudète, alors que je pense que la question est beaucoup plus large. Il s'agirait plutôt de parler de mémoire allemande, peut-être en Tchécoslovaquie ou dans les pays tchèques.
Donc vous pensez que la question, ou du moins la germanité sudète, constitue encore un cadre de représentation de ce passé en République tchèque ?
Oui, je le pense. Je crois que pour ici en République tchèque, Sudète est synonyme d'allemand, et ce n'est pas le cas en Allemagne, je crois, où ce sujet est nettement moins présent dans la société allemande, pour autant qu'on peut parler d'une société allemande, mais il est nettement moins présent qu'ici, et c'est lié bien sûr à la construction du discours national, des représentations nationales, et de l'importance de ce cadre qu'a encore aujourd'hui cette question.
Christian Jacques, je vous remercie. Au revoir.
Oui, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
C'était donc Christian Jacques, maître de conférence à l'université de Strasbourg, spécialiste de l'histoire et de la culture allemande dans les pays tchèques et en Europe centrale. Il répondait aux questions de Paul Bauer dans la rubrique Histoire de cette semaine. Les émissions en français de Radio Prague s'achèvent, mais évidemment l'info continue sur notre site internet le www.radio.cz/fr sous forme d'articles mais également sous forme de podcast. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.